des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et nos invités aujourd'hui seront Jacques Cottard, Raoul Marc Génard et Paul Thibault.
Et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent.
Ça, c'était le cri de joie des auditeurs réunis le 29 mai 2005 dans les locaux d'Aligre FM à l'annonce des résultats du référendum sur les traités instituant une constitution. Joie immense comme celle probablement des 54,7% des Français qui avaient voté non. Ce jour-là, on a bien dû évoquer en rigolant le fait que peut-être on allait nous appeler à revoter, comme on l'avait fait en d'autres circonstances pour d'autres peuples récalcitrants. Mais ce qu'on ne soupçonnait pas, c'est que la réaction serait plus perverse. Après, comme politique et médias aient craché leur venin à la face du peuple souverain au lendemain du 29 mai, on allait carrément se passer du peuple. Car aujourd'hui, c'est bien le même traité à peu de choses près qui aurait servi, mais pour être sûr qu'il soit ratifié, c'est aux parlementaires qu'il sera soumis. L'Union européenne était déjà une construction en elle-même adémocratique, mais on passe cette fois-ci à la vitesse supérieure en portant atteinte au nom d'une prétendue nécessaire avancée de la construction européenne au fondement même de la démocratie française. La décision du peuple souverain est niée, jetée aux orties, avec l'aval de la quasi-totalité de la classe politique et des médias qui font régner l'omerta la plus absolue sur ce déni de démocratie, pourtant dénoncé par certains. Retour sur ce que les invités de Dessous disaient déjà en 2005. Extrait d'abord d'une émission du 29 mai 2005 avec l'analyse d'Arnaud Montebourg au référendum, puis Jacques Cottard, journaliste, émission du 14 juin 2005.
Alors l'intervention du président de la République est annoncée d'un instant à l'autre. En attendant Arnaud Montebourg, on vous a pas entendu. Quel est votre sentiment tout simplement ce soir ?
Qu'est-ce que vous allez faire de ce nom maintenant à partir
Il faut d'abord l'analyser. C'est quand même une gigantesque motion de censure populaire contre l'absence de démocratie en Europe. Est arrivé un nouvel acteur ce soir, en Europe, pas seulement en France, ce sont les citoyens. Ils ont mis un pied dans la porte et ont dit « nous sommes propriétaires de l'Europe, copropriétaires de l'Europe ».
Les Espagnols avaient dit l'inverse, ils s'étaient exprimés également.
Ils viennent de le dire d'une façon saisissante, participation importante, partout, dans tous les quartiers, dans les endroits où on disait « ces gens-là ne votent plus, c'est même plus la peine de faire de la politique pour eux ». On entendait ça, y compris dans certains de nos partis. Donc nous avons là un événement politique majeur, où les citoyens viennent de faire irruption dans le processus de construction européenne et ont décidé d'en être les copropriétaires.
Cela étant, j'ai entendu tout à l'heure vos réactions. Il y a Montebourg qui dit une chose, et bon, c'est pas faux, mais à la fois, si vous voulez, je pense que c'est une vision assez politique des choses qui, à mon avis, les prend à la surface. Quand il dit « les Français, le 29 mai, ont fait irruption dans le processus de la construction européenne ». Bon, bien sûr, c'est vrai, le vote n'est pas indifférent. Il change la donne sur le terrain de la construction européenne. Mais il me semble que les Français, c'est pas là-dessus qu'ils ont fait irruption d'abord. Ils ont fait irruption dans les processus de développement démocratique, d'expression dans notre propre pays. Et c'est ça qui me semble important. Moi, j'en reviens à cela. Ça me semble absolument fondamental. C'est-à-dire que il y avait un vote légitime, il y avait un vote possible, il y avait un vote intelligent, et les Français, comme nous le savons, qui sont obtus, qui sont fermés, qui ne comprennent pas, ils ont dit, après avoir terriblement étudié ce dont il s'agissait, ils ont dit, eh bien non, pour nous, c'est non. Et ça, c'est très important. Ça, c'est une réappropriation démocratique de leur propre vie et de leur propre expression. Et pour moi, c'est ça une des grandes leçons de ce référendum. Ça a été cette capacité collective à résister à un rouleau compresseur considérable, parce qu'on parle des médias, mais je sais pas, rappelez-vous, ça a été les affiches 4x3, ça a été les livrets propagande dans les lycées, on a tout eu. Ils nous ont tout dit, ils sont tous montés au créneau, et les Français, eux, ils ont dit, sans le prévoir, enfin en le prévoyant bien sûr eux, mais je veux dire sans effet d'annonce, sans expression à la hauteur des moyens financiers qui étaient en face, ils ont dit c'est non et ils ont été sur le non jusqu'au bout. Et ça me semble vraiment très important du point de vue des processus démocratiques et de ce qui s'est joué le 29 mai.
Justement, ce nom, normalement, portait justement un sens, portait, ou du moins était porteur d'interrogations sur l'Europe qu'on veut construire, mais aussi éventuellement sur la place de la nation, de l'État, sur le libéralisme. Est-ce que le fait que les médias actuellement, peut-être que ça va changer, on ne sait jamais, on peut toujours espérer, est-ce que le fait que les médias actuellement, moi j'ai l'impression d'une espèce de chape de plomb sur ce nom qui disparaît peu ou prou. Vous disiez tout à l'heure que le rôle du journaliste, c'était de justement d'analyser une situation en justement en passant sous le tapis l'analyse de cette situation, de sens de ce nom. Est-ce que c'est pas aussi une spoliation de la démocratie? C'est peut-être un peu fort, mais est-ce que c'est pas mettre en cause, prendre un risque avec la démocratie, alors même que justement c'est le reproche qui a été fait aux partisans du non?
Ben oui, parce que moi je crois que la question de la démocratie, ça a d'abord été la question centrale du problème européen, si on veut revenir sur l'analyse du vote. Il me semble qu'un des moteurs pour lesquels, et d'ailleurs les partisans du non, moi je pense, ils se sont racontés une histoire un peu. Parce que vous vous rappelez, beaucoup ont dit, si on vire la partie 3 du traité constitutionnel, l'un et à deux, pourquoi pas? Ben non, il me semble que non, justement. Il me semble que le contenu du vote, c'était de dire l'un et la deux, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que tout le monde a compris, je pense que ça a été un des éléments les plus forts. Moi, j'ai vu un petit peu en travaillant dans mon boulot, ou bien alors en me baladant, en discutant, bon, comme vous, comme tout le monde, en allant boire un café, dans un troquet, en discutant avec les gens, en faisant, en fait, ce que nous faisons dans notre métier, et en le faisant en plus de façon passionnée comme citoyen, dans la période exceptionnelle qu'on a vécue. Bien, les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Je pense qu'ils avaient bien compris ça. Ils disaient qu'en fait, l'édifice, la construction européenne qu'on était en train de mettre en place, bafouait un principe élémentaire. C'était leur souveraineté, leur droit, leur pouvoir, leur capacité à décider de leurs propres affaires. Ils avaient compris qu'en fait, c'était une espèce de monstre tentaculaire qui déniait leur principe élémentaire démocratique d'expression et de décision. Et c'est pour ça, à mon avis, le gros moteur du non, il est là. Il n'est pas ailleurs. Alors, c'est intéressant parce que je pense que c'est lié à cette réaction et à la façon dont les citoyens ont pu ressentir le traitement médiatique de l'affaire. Il y avait une correspondance quasi absolue, quasi parfaite, entre un des aspects qui justifiait le rejet de ce projet constitutionnel du 29 mai et la façon dont c'était relaté le traitement dans notre propre pays par nos propres médias. Et je pense que la question de la démocratie, elle a été centrale. C'était une question de fond dans cette histoire. Alors, je pense qu'on l'a retrouvée, et puis on la retrouve, et c'est sans doute une des questions auxquelles nos concitoyens sont le plus attachés, et à juste titre, hein, parce que quand même, c'est pas n'importe quoi, la démocratie, c'est quand même une des valeurs qui nous permet de vivre ensemble, et qui est pas secondaire, qui est quand même fondamentale, et c'est vrai que quand on sent que certains s'amusent et jouent avec, ça va pas, et puis il y a une voix qui s'élève, et puis c'est pas mal, il y a eu 55% des Français qui ont dit ce qu'ils en pensaient.
Il est 21h59. Et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent.
Jacques Cottet soulignait le rôle de la partialité des médias dans le non français. Cette fois, en 2007, ils ont bien compris les leçons. Ils ne sont pas partiaux, ils sont muets. En 2005, l'animatrice de Dessous était déjà inquiète de ce que certains regrettaient qu'il y ait un référendum. Extrait de l'émission du 3 mai 2005 avec Raoul-Marc Génard, un de ceux qui avaient sillonné la France pour appeler au vote non, bien qu'il soit un fervent partisan de l'Europe. Il y a quelque chose d'autre qui m'inquiète un petit peu. Alors c'est pas directement le traité dans le traité lui-même, mais c'est l'attitude des élites actuellement que l'on peut voir, du moins depuis que le non finalement s'affirme. Moi j'ai entendu des personnes qui quasiment regrettaient qu'il y ait un référendum en France. J'ai entendu même un journaliste qui parlait de ce qui se passait en Allemagne dans lequel il n'y a pas de référendum. Il n'y avait pas de référendum parce qu'on savait ce que ça avait donné avant les années 40. Enfin, il y a une espèce de stigmatisation véhémente. de l'opinion du peuple. Est-ce que c'est pas inquiétant et qu'est-ce qu'on peut espérer comme transformation si éventuellement le non l'emportait justement?
Mais si le non l'emporte, c'est un formidable désaveu des élites politiques et médiatiques. Dont il faut bien constater que le fossé entre le peuple et ses élites n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce dossier-là. Les élites politiques et médiatiques qui se rangent toutes dans le camp du oui, à quelques exceptions près, il y a quand même des exceptions, servent en fait ceux qui sont les maîtres du jeu, c'est-à-dire le patronat, et donc ne peuvent pas concevoir un langage critique à l'égard d'un texte qui est celui que voulait et que veut le patronat. Il faut quand même se rappeler que quand la convention présidée par Giscard d'Estaing a commencé ses travaux, aussi bien le MEDEF que l'équivalent patronal au niveau européen qui s'appelle l'UNIS ont sorti des textes limitant, balisant ce qui pouvait se faire. Ils indiquaient très précisément ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient pas. Et quand on compare ces messages qui furent envoyés en 2002 avec le résultat, on peut constater effectivement qu'ils ont obtenu totalement satisfaction. Et donc, pour tous ceux qui sont les relais, soit technocratiques, soit politiques, soit médiatiques du monde des affaires, il est normal qu'ils défendent ce texte. Le problème, c'est que les politiques le fassent, c'est leur liberté, que les journalistes qui prétendent être des journalistes, c'est-à-dire à fournir une information et à donner aux citoyens l'information la plus complète possible, là il y a un vrai problème, parce que le droit à l'information, c'est pas seulement le droit des journalistes de trouver l'information, c'est le droit des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs à avoir une information complète et équilibrée.
Écoutez, vous aurez en réalité 24 pays qui voteront oui, et puis le mouton noir qui aura tout bloqué.
C'était une fois dans le pays, parmi les champs et les prairies, un beau troupeau de moutons blancs dans les prés paissait insouciant. Mais
au milieu du troupeau qui bêle, un mouton noir se rebelle.
En mettant la laine sur le dos, j'ai plus que la peau sur les os. On veut faire de moi un méchoui, faudrait encore que je dise oui.
N'ayez pas peur, mes agneaux.
Le mouton noir a bien compris que les loups faisaient les chantilles.
Avec l'espoir, quand vient la nuit, de brader par bout la bergerie.
Pour une concurrence non faussée.
Au milieu du troupeau qui bêle, le mouton noir se rebelle.
Le mouton noir a bien compris, l'homme est un loup pour le mouton.
Et quand soudain le mouton grogne,
les loups s'affolent pour un non.
Le Seigneur n'est pas mon berger, je suis le mouton de personne.
Le mouton noir a décidé d'ignorer le clairon qui sonne.
Au milieu du troupeau qui bêle, le mouton noir se rebelle.
Le mouton noir n'est pas gentil, il en a marre de dire amen.
Alléluia.
Aux chiens de garde sur toutes les chaînes.
Le mouton noir ne dit pas oui. Le mouton noir enfin voit rouge, se dit que tout seul rien ne bouge. Qu'il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot. Il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot. Il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot.
Moralité:
à prendre les gens pour des moutons, on se prend des retours de bâton. À prendre les gens pour des moutons, on se prend des retours de bâton. À prendre les
moutons
gens
de toutes les prairies, unissons-nous.
Des retours de bâton. À prendre les gens pour des moutons.
L'émancipation des moutons sera l'œuvre des moutons eux-mêmes.
les gens pour
El troupeau unido ramassera vencido.
À prendre les gens pour des moutons, on se prend des retours de bâton.
Le retour de bâton, ils l'ont bien eu en 2005. Mais qu'importe pour eux, on fera l'Europe sans les peuples. L'Europe vaut bien cela sans doute. Extrait de l'émission du 24 mai 2005 avec Paul Thibault, philosophe, ancien directeur de la revue Esprit.
Mais est-ce que ça risque pas d'arrêter l'Europe? Parce que c'est ça que dirait un partisan du oui.
Bien sûr.
Oui, mais ça va arrêter l'Europe, c'est la fin de l'Europe.
Mais attendez, si l'Europe est un projet sérieux, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Les raisons de faire l'Europe apparaîtront dans le débat à tout le monde, si vous voulez. Et simplement, on les précisera. Elles deviendront plus conscientes à travers ce débat européen, alors que là, elles sont présupposées métaphysiquement sans être mises à l'épreuve du débat. C'est ça le point qui est important.
Finalement, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi il faudrait que je vote non.
Je vous l'ai dit à l'instant, il faut arrêter un processus dont personne ne comprend exactement où il va, si vous voulez. Le slogan de l'Union sans cesse plus étroite a dépassé sa zone de validité de toute évidence pour essayer d'éclaircir l'enjeu européen et créer une vie politique européenne. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'est l'argument le plus important. La création d'une vie politique européenne passe par le non, passe par cette crise, si vous voulez, reconnue d'une certaine manière de fonctionner, qu'on peut d'un certain côté résumer par un fonctionnement diplomatique. C'est-à-dire que la diplomatie est devenue une manière de légiférer, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. La diplomatie a sa zone de validité très forte, qui consiste à éviter les guerres, à fabriquer des compromis pour éviter les guerres. Enfin, elle n'a pas fait que ça, mais c'est une de ses tâches, incontestablement. Et pour éviter les guerres, il faut quelquefois, souvent même, créer justement des accords fragiles et dissimuler les enjeux profonds, ou du moins les mettre sous le boisseau et valoriser le compromis immédiat, ce qui est tout à fait légitime en ce qui concerne la diplomatie. Comme manière de légiférer, c'est très mauvais. Parce que c'est des décisions qu'on ne peut pas s'approprier, si vous voulez. Alors, il y a un abus de pouvoir c'est quand même un abus de pouvoir collectif des exécutifs contre les parlements et contre les peuples, le pouvoir. Enfin, ce sont les exécutifs, donc, d'une manière diplomatique, par frottement, si vous voulez, par fabrication d'une socialité particulière, disons d'en haut, comme on dit maintenant, qui ont fait l'Europe. Alors, il s'agit de le remettre, de réimpliquer les peuples, si vous voulez, réimpliquer les peuples, les représentations, parlementaire, si vous voulez. C'est ça le point important. Et comment ça passerait par continuons comme avant, si vous voulez. Non, c'est pas possible. Alors il faut une rupture, si vous voulez. C'est ça, au fond, la raison essentielle. Et puis l'autre point, je dirais, l'Europe est en crise et il faut reconnaître sa crise. Non pas simplement nous dire mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. Peut-être qu'il y en a pas assez, peut-être qu'il y en a trop. Ça dépend des points, si vous voulez. Et parmi les propositions qui sont faites par les opposants, il y en a qui vont vers plus d'Europe et d'autres vers moins d'Europe. C'est incontestable, si vous voulez. Ils sont pas d'accord entre eux, d'ailleurs, en général, sur ce point. Mais c'est un fait. Cette crise doit être d'abord avouée. Enfin, il y a une déception économique et sociale. Bon, c'est quand même le pays ou la zone plutôt des 20 millions de chômeurs, à peu près, quelque chose comme ça, ce qui est quand même faramineux, si vous voulez. Il y a aussi une déception politique, quoi qu'on dise à propos de la guerre d'Irak. Il y a eu une réaction des opinions nationales assez largement concordantes qui a été représentée, si vous voulez, par la politique franco-allemande, hein, si vous voulez. Ça c'est tout à fait incontestable. Ceci étant, avec tout cela, on n'est jamais arrivé à exprimer autre chose qu'une opposition ou une réticence vis-à-vis de la politique de Bush. Et non, il n'y a pas de politique européenne pour le Moyen-Orient, pour les pays arabes, pour l'Afrique, pour rien du tout. Il n'y a pas non plus vis-à-vis de l'ancienne Union soviétique ou la, qu'une maison qui est en voie de s'écrouler et qui, dont les gravats nous tombent sur les doigts de pied. Alors, il y a donc une déception économique sociale, une déception politique. Enfin, alors, on observe même, si vous voulez, que les pays les plus malades, comme on dit, l'Italie, l'Allemagne, la France, sont les pays du cœur de l'Europe. Sont les pays d'abord de la zone des 6, enfin ces trois-là, c'est le 9/10 de la population des anciens 6. La Hollande est un pays qui n'est pas non plus en bon état. Alors qu'est-ce qui reste de l'Europe des 6 qui sont en bon état? À peu près rien. Ceux qui s'en tirent, alors c'est les nouveaux arrivants, parce qu'ils ont eu l'Espagne, Portugal, Irlande, Grèce, qui ont des avantages spécifiques. Et les pays d'Europe du Nord qui sont... quelquefois en dehors de la zone euro, comme la Suède et le Danemark et l'Angleterre, il n'y a que la Finlande qui soit dans la zone euro, et qui sont surtout des pays beaucoup moins impliqués psychologiquement dans l'Europe. C'est des pays, je dirais, moins aliénés à l'Europe, qui savent que, qui se pensent comme des pays souverains, des pays responsables, des pays qui ont à régler leurs propres problèmes par leurs propres moyens. Alors, expérience faite, si vous voulez, l'européisme n'est pas un bon remède, si vous voulez. Bon, voilà des questions qu'il faut poser. L'Europe est en crise et à ne pas vouloir le reconnaître, on ne peut faire que prolonger cette crise qui doit être d'abord regardée en face pour être traitée. Voilà à peu près la situation présente telle que je la vois.
Mais un socialiste bon teint vous dirait oui, d'accord, pour l'instant ça va pas très très bien, mais l'Europe sociale c'est juste pour demain.
Non, l'Europe sociale n'est pas pour demain. Ils le savent bien que l'Europe sociale n'est pas pour demain. Il y a une dissymétrie dans les traités. Le social et le fiscal se traitent à l'unanimité. L'économique, ou bien il fait partie de la compétence propre c'est la Commission qui s'en occupe, ou bien c'est l'Union européenne qui décide à la majorité. Le Conseil européen qui désigne à le Conseil des ministres qui décide à la majorité. Donc, vous voyez très bien que quand on veut faire une norme sociale comme, par exemple, la norme sur le temps de travail, on a vu, il y a eu des discussions, on n'arrive pas à décider à l'unanimité. Mais pendant ce temps-là, la concurrence, elle est libérée au nom du mode de décision économique. Donc l'Europe est une, entre l'économique et le social, il y a une jambe longue et une jambe courte. Alors ça boite.
Et oui, c'était des sous et des hommes avec la rediffusion d'extraits d'émissions faite avec Raoul-Marc Génard, Jacques Cotta et Paul Thibault. Alors voilà, on avait voté non en 2005 et ils vont bientôt voter oui. C'est la revanche des élites au mépris de la démocratie. Je vous rappelle que malheureusement, seule une opposition unanime des partis de gauche, donc essentiellement du Parti Socialiste, à la révision de la réforme constitutionnelle préalable à la ratification du traité modificatif, peut arrêter le processus en marche. Je ne peux qu'à nouveau vous inviter à présenter à tous les élus du Parti Socialiste des vœux 2008 à votre façon, en leur rappelant qu'en mars, au municipal, le peuple ne saurait voter pour qui le méprise. La semaine prochaine, nous réécouterons deux très bonnes analyses de Limon Nock et Jacques Généreux. Mais en attendant, passez une excellente journée de Noël. À bientôt.